Je reçois notre invité au téléphone, Pierre Jovanovic. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Mais avec grand plaisir, directeur littéraire au Jardin des Livres, pour un nouveau livre, un brûlot supplémentaire, avec encore des chiffres, parce que je ne sais pas si vous aimez les chiffres, mais vous avez fait 888, 777, et là c'est 2008, alors évidemment c'est une année importante pour les banques, pour les pouvoirs. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé à cette année, fameuse année 2008, qui est quand même gravée, je pense, dans notre mémoire comme 1929 ?
Écoutez, tout simplement parce que le gouvernement français, enfin les autres gouvernements d'ailleurs dans les autres pays, essayent de faire croire que ce sont les boomers, ce sont les Français qui sont responsables de la crise financière, alors qu'en réalité, Sarkozy a volé littéralement les pensions, les cotisations retraite des Français pour sauver les banques en 2008. Mmh. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que les banques, notamment le Crédit Mutuel, a commencé à racheter la totalité de la presse régionale afin de contrôler le message qui est donné aux Français. Donc c'est le plus grand vol qui ait jamais été commis dans l'histoire de l'humanité par les banques américaines, avec la complicité du président Sarkozy. Et pas seulement lui, hein, on parle d'une grande partie de son équipe, qui a validé ce choix plutôt que de nationaliser les banques en faillite.
Mais alors, vous parlez effectivement de la France, mais tous les pays ou quasiment ont été concernés à un moment donné par cela, avec l'assentiment, je vais dire, des médias nationaux.
Ah mais tout à fait. D'ailleurs, vous savez, en 2008, lorsque Wall Street a explosé le 29 septembre, d'ailleurs, on va fêter l'anniversaire dans quelques jours, les médias, en fait, ont fait l'impasse totale de ce qui s'est passé aux États-Unis. Tant et si bien, je vous donne un exemple qui est dans le livre, hein, vous savez, à un moment donné, Vincent Bolloré publie un journal gratuit qui était diffusé dans les métros un peu partout en France, qui s'appelait Direct Matin. Et lorsque Wall Street a explosé, non seulement ils ont rien publié, ils ont fait une toute petite brève dans un coin du journal, alors qu'un match de foot qui s'était terminé plus tard avec le décalage horaire, mais en France, lui avait le droit d'être à la une et d'être largement commenté. Donc déjà, ça vous dit tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque Wall Street a explosé, eh bien, figurez-vous que Sarkozy a demandé à ses potes du syndicat du livre, qu'il a dû caresser dans le sens du poil, de déclencher une grève à 3h du matin, ce qui fait que le 30 septembre, il n'y avait pas un seul quotidien dans les kiosques en France. Ça vous montre la censure globale qui s'est abattue et le début de la suppression de la liberté d'expression en France.
Mais déjà à l'époque, donc 2008, il y avait les chaînes info qui étaient là sur la TNT, les économistes qui régulièrement nous donnent des leçons sur les plateaux se sont tus aussi sur cette situation-là. Comment vous l'expliquez, Pierre?
Je l'explique simplement parce qu'ils sont aux ordres. Nicolas Dose, par exemple, Nicolas Dose sur BFM, c'est à peine s'il a commenté. Et puis pendant toutes ces années 2009, 2010, 2011, etc., il n'y a pas de crise. Alors que la France était en proie à des violentes séries de licenciements massifs. D'ailleurs, on le voit dans le livre 2008, et on le voit avec notamment Toiti, un autre journaliste économique qui expliquait que tout va repartir en 2009. C'était juste une petite crise qui touchait les Américains, voilà, les banques américaines. Donc, alors même aujourd'hui, on paye le prix. On paye le prix de ce vol global des centaines de milliards aux Français. Et le nouveau ministre, Premier ministre, nous a expliqué que c'était les boomers qui sont responsables du déficit. Et quand c'est pas les boomers, c'est le prix des hôpitaux, alors qu'ils ont supprimé 60 000 lits d'hôpitaux au minimum. C'est un vrai scandale.
Est-ce que ça explique aussi que les banques font aujourd'hui le trust des publicités, parce que il n'y a pas une page publicitaire sans qu'il y ait une pub pour une banque? Est-ce que ce ne sont pas justement ces banques qui tiennent aussi les médias, parce que étant nous-mêmes un média, on a besoin de publicité pour vivre?
Alors, vous avez raison. C'est une question en fait à double tranchant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de banques. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein, la banque postale qui empêche les gens de retirer l'argent et qui, lorsque vous déposez 200 € sur votre compte parce que vous pensez que vous allez être découvert, vous demande de justifier la provenance de ces 200 €. Je ne sais pas si vous imaginez. Eh bien, tout est prétexte en fait à mettre les gens à découvert. Et pour se couvrir, la banque postale en fait achète des spots télé sur BFM, CNews, etc. Et dans les hebdomadaires. C'est pour qu'on ne parle pas d'eux. Voilà, c'est une autre façon de faire. Et donc votre question effectivement est très très pertinente. Et c'est ce que je vous disais en début d'interview, c'est-à-dire que Crédit Mutuel a racheté la moitié de la presse régionale à partir de janvier 2009. Tout est dit. Et aujourd'hui, ce sont des milliardaires qui s'entendent très bien avec Macron qui possèdent la totalité des grands médias.
Mais comme on arrive en pré-élection ou pré-campagne électorale, je ne parle pas des municipales, mais de la présidentielle et des législatives qui seront peut-être avancées ou pas, on ne sait pas. Mais là aussi, quel que soit le prochain chef de l'État, quel que soit son bord, il va se retrouver avec cette situation-là qui découle justement de 2008, cette année que vous évoquez dans ce livre, Pierre Jovanovic.
Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, vous avez vu que... mais en fait, c'est beaucoup plus grave, parce que pour ma part, et comme vous le voyez dans le livre, j'expliquais, si vous voulez, que ce qui s'est passé donc en 2008 allait forcément terminer la France, qui va se retrouver dans la même situation que la Grèce. Hein, n'oubliez pas, la Grèce a été mise sous tutelle du FMI, de la Banque Centrale et de la Banque Mondiale en... 2009-2010. Eh bien, la même chose va se passer pour la France et la même chose risque de se passer effectivement pour l'Angleterre. D'ailleurs, la presse anglaise est en train d'hurler contre le gouvernement. Donc le nouveau président effectivement va se retrouver dans la même situation, tout simplement parce que Sarkozy, Hollande et surtout Macron n'ont rien fait. Au contraire. Et en fait, ça découle d'une décision qui consiste à mettre des pays où la population quand même résiste en fait à ce truc mondialiste, à les endetter de manière à les mettre sous contrôle du FMI et de la Banque mondiale, comme la Grèce. Et regardez, on a dépassé les 3,4 trilliards de dettes hier, je crois. Donc ce qui veut dire qu'on paye 40, on a payé, cette année on va payer je crois l'équivalent de 40 milliards juste en intérêt sur notre dette, d'accord. Ça veut dire que l'année prochaine on va payer je sais pas 60 milliards. Et la France est coincée, elle est le dos au mur, et toutes les mesures que le gouvernement va prendre effectivement c'est aux dépens des Français. Moi je vous rappelle juste quelque chose d'absolument extraordinaire. Ma fille avait de l'asthme. Donc dans les années 2000-2001, les rares fois où j'étais obligé de l'emmener aux urgences, c'était 5 minutes d'attente maximum. Aujourd'hui, le Parisien Libéré a montré que le temps d'attente, c'est 5h20 en moyenne dans les urgences. Est-ce que vous réalisez? Et toutes ces suppressions de lits, de médecins, de capacités techniques d'accueil, etc., en fait, être supprimées pour payer la dette. Enfin, les intérêts sur la dette. C'est effroyable.
Mais cette année 2008 n'a jamais été officiellement reconnue comme un krach boursier, contrairement à 1929.
Ah bah, vous avez tout à fait raison de le dire. C'est justement, c'est le rôle des médias. Et le rôle des médias, effectivement, les médias ont effacé C'est-à-dire qu'ils nous ont fait croire, je le dis dans le livre, vous parlez de 2008 aujourd'hui, ah mais c'est Kerviel. alors qu'en fait, tout le monde était au courant des positions de Kerviel à la Société Générale, tant et si bien que son patron a été nommé, a été exfiltré de France, pour pas qu'il soit interrogé par la justice, hein, et il a été nommé PDG de UniCredit en Italie. Donc vous voyez un peu, et moi je montre dans ce livre, et c'est ce qui m'a valu la descente de police de l'Élysée.
Ah oui, quand même, parce que...
Ah oui, vous faites... ah oui quand même.
Vous faites tellement de révélations dans ce livre 2008 que je me suis dit en le feuilletant, en le parcourant, comment ça se fait qu'un tel livre ait été autorisé à la publication?
Votre question est pertinente. Hein. Moi, je rappelle à vos auditeurs que l'équipe de l'Élysée en fait a court-circuité le ministère de l'Intérieur parce qu'ils ont fait cette intervention dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin et comme ils pouvaient pas faire une perquisition. Et l'heure de la perquisition, c'est 6h du matin, hein, oui. Vous voyez. Ils ont détourné le truc et ils ont dit que j'étais armé, que j'allais me suicider. Ce qui m'a valu l'arrivée du GIGN, de la police judiciaire, des pompiers, du préfet de police. Dieu merci, en fait, ils se sont ramassés. Moi, j'étais pas là. Et attendez, ils sont descendus également la maison d'édition. Ah oui. Hein, ils ont cassé la porte de la maison d'édition, ils sont descendus même dans les caves de l'immeuble, où ils ont cassé les portes des caves. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ils en sont là.
Vous recevez quand même des pressions. Vous avez des pressions, des menaces.
Ma porte a cédé à la pression. Ça, je peux vous le dire. Ma porte a été explosée par le GIGN.
Est-ce que ce livre 2008, c'est un livre historique, c'est-à-dire que dans 50 ou 100 ans, ça fera référence comme quand on parle de 1929 aujourd'hui?
Oui, tout à fait, parce que j'ai chroniqué tout ça au jour le jour à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais commencé ma revue de presse, on en a parlé ensemble, quelques fois. J'avais commencé en février 2008. Hein, quand j'avais vu qu'il y avait 10 banques, les 10 plus grandes banques mondiales cherchaient à se recapitaliser, ce qui veut dire que les 10 plus grandes banques mondiales étaient en faillite, en fait. C'est ça que ça voulait dire. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez raison, c'est un livre historique. D'ailleurs, on est à la 6e réimpression en l'espace de 3 mois.
Ce qui prouve l'intérêt.
C'est un succès colossal. Hein. Je remercie les Français, et certainement quelques-uns de vos auditeurs pour le succès de ce livre et pour le soutien qu'il m'apporte.
Et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies de toute façon parce qu'il n'est pas censuré quand même.
Ils ont essayé. Ils ont retardé la sortie au maximum. C'est-à-dire que le livre devait sortir fin avril. Ils ont retardé la sortie en pleine quasiment au 20 juin de mémoire, de manière à ce que ça sorte en été que les Français ne le voient pas. C'est raté.
C'est raté, ça je peux vous dire parce que on a des auditeurs qui sont fidèles et qui attendent régulièrement vos publications et on se fait même remonter les bretelles. Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas encore fait une interview avec Pierre Jovanovic parce que il y a sorti 2008. Hein. Je l'ai eu comme réaction. Voilà. Je voulais aussi vous dire, quand vous avez en février donc 2008 commencé à faire ces premières récoltes de documents, parce qu'on les retrouve dans votre livre, vous sentiez déjà qu'il allait se passer quelque chose dans cette année 2008?
Tout à fait. D'ailleurs, en mars-avril 2008, je disais à tous ceux qui me suivaient, enfin sur la revue de presse, sur quotidien.com, je leur disais bazardez vos assurances vie, vos livrets d'épargne, etc., vos livrets A, achetez de l'or. Voilà. Et à l'époque, l'or était à 800 dollars. Aujourd'hui, il a dépassé les 3500, je ne sais plus combien. Donc effectivement, j'étais un des rares en France, je crois que j'étais le seul, à avertir les Français que Wall Street allait exploser.
Alors à celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez donner un conseil ?
D'ailleurs, on en a parlé ensemble. On en a parlé de plusieurs fois ensemble, vous le savez bien. Enfin, vos auditeurs, vos fidèles le savent.
Donc aujourd'hui, il vaut mieux acheter de l'or ?
Ah mais c'est clair, si vous ne laissez pas, c'est ce que je dis toujours. D'ailleurs, vous savez quoi ? Il y a deux jours, trois jours, l'or avait dépassé le 101 000 euros le lingot. Je ne sais pas si vous imaginez. Et hier, il est monté à 104 000 euros. Donc, ce n'est pas le prix de l'or qui monte, c'est le pouvoir d'achat de nos billets de banque qui descend. C'est ça qu'on doit voir. Voilà. Donc, allez-y.
Pardon Pierre. C'est mieux que les bitcoins, finalement, l'or ?
Les bitcoins, c'est autre chose, c'est Las Vegas. Je mets en garde, d'ailleurs c'est dans la revue de presse de cette semaine, lundi matin, là. C'est-à-dire que vous avez régulièrement des plateformes, le dernier en date c'est Coinbase, c'est pas n'importe lequel en plus, je veux dire, il y a eu, je sais plus combien, 70 000 clients qui se sont fait voler 400 millions. Donc je dis vraiment attention, c'est Las Vegas. Voilà. Si vous avez 10 000 euros à placer, que vous estimez que vous pouvez les jouer à une table de roulette, ben là oui, vous pouvez, allez-y. Moi, sincèrement, entre le Bitcoin vous savez, avec une pièce d'or, une pièce d'argent, vous pouvez toujours vous arranger avec votre boulanger pour qu'il vous vende du pain et votre boucher pour qu'il vous vende du steak haché. Je suis pas certain qu'avec le Bitcoin, vous puissiez discuter avec votre boulanger ou avec votre boucher ou avec votre charcutier.
Donc, il est temps de prendre l'argent, de récupérer notre argent sur notre compte bancaire.
Justement, votre question est encore plus pertinente là, pour le coup, parce que figurez-vous que hier ou avant-hier, la Banque Centrale Européenne a émis un avertissement aux citoyens européens en leur disant, en cas de souci, donc déjà rien que ça, c'est bizarre, hein, vous devez garder sur vous au moins 100 euros en liquide. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent à quelque chose.
Et vous-même, vous le pressentez, ce quelque chose ?
Évidemment que on le pressent, si vous voulez, pour une raison très simple. Je pense que tous vos auditeurs en ont fait les frais, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous allez à votre banque et vous leur dites « Donnez-moi 600 euros ou 1000 euros en liquide parce que je vais les distribuer à Noël et aux petits-enfants », oui, c'est pour quoi faire. Vous devez justifier de ce que vous allez faire et ainsi de suite. Moi, j'ai des témoignages de lecteurs tous les jours qui me disent qu'ils ne peuvent même plus demander un chèque de banque pour s'acheter une voiture d'occasion ou une moto d'occasion. C'est complètement dingue. Justifiez votre achat.
Oui. Il faut justifier l'utilisation.
Il faut se justifier de nos dépenses. Je veux dire, ça veut dire que votre épargne ne vous appartient plus, votre argent ne vous appartient plus.
Ben oui, mais on ne peut pas
vous
garder...
Vous devez rendre des comptes. Voilà, vous devez rendre compte comme un enfant de 6 ans à ses parents en qu'est-ce que tu vas faire de ton argent de poche. Ou c'est comme quand on était à la maternelle qu'on devait madame, est-ce que je peux sortir, lever la main, est-ce que je peux sortir pour aller faire pipi. On en est là aujourd'hui avec la crise bancaire et ça c'est 2008.
Plus les gouvernements qui verrouillent aujourd'hui de plus en plus l'information, les médias, on le voit aux États-Unis, mais on le voit en Europe aussi.
On l'a vu avec la révélation des Twitter Files il y a à peu près 15 jours, et on a vu que c'est Macron qui a été en tête pour demander, pour forcer Twitter à l'époque quand Jack Dorsey était le PDG, de censurer la totalité des gens qui s'opposaient, grosso modo, à ce que disait Macron et son gouvernement. Moi, je rappelle à vos auditeurs que c'est son attaché de presse, Sibeth Ndai, vous rappelez de la grosse idiote là qui disait « je sais pas mettre un pied ». Vous vous souvenez de ça ?
Oui.
Non mais, voilà, ben, c'est elle qui avait demandé à Jack Dorsey sur X de mettre mon compte en shadowban. Ou le supprimer, mais Dieu merci, X m'a mis en shadowban, mais n'a pas supprimé mon compte.
Bon, tant mieux pour vous. Pour la liberté d'expression aussi, quand même.
Oui, voilà. Et en fait, Macron a déclaré à New York il y a deux jours en disant que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de très grave et que ça fait paniquer les gens et que c'est pour ça que sans doute qu'ils votent mal d'ailleurs. Vous vous rendez compte. Alors qu'en fait, les réseaux sociaux ne sont ni plus ni moins qu'un amplificateur, si vous voulez, du bouche à oreille. Oui, de ce que pensent les gens.
On l'a vu avec Blocontou, par exemple, hein, cette opération qui a gêné quand même le pouvoir en place début septembre.
Bah, attendez, on a vu YouTube qui a reconnu hier, YouTube, donc officiellement aux États-Unis, qui a dit « Oui, nous sommes désolés, le gouvernement de Joe Biden nous a demandé de fermer les comptes de tous ceux qui étaient anti-vax, hein, ou de ceux qui remettaient en cause le Covid ». Maintenant, avec les millions d'effets secondaires et les millions de morts, effectivement, YouTube est en train de faire marche arrière, et surtout pour se blanchir vis-à-vis de ses utilisateurs. Hein. Et donc, ils ont reconnu qu'ils ont censuré, ils ont fermé des millions de comptes. Des millions de comptes. Vous vous rendez compte?
Oui, c'est le cas de dire, oui.
Oui, c'est le cas de dire, oui.
Donc, c'est l'argent qui fait élire aujourd'hui un chef de l'État, que ce soit Trump ou le prochain Français?
Absolument. C'est ceux qui tiennent les médias. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit que Crédit Mutuel a racheté la moitié de la presse régionale française, ce qui est absolument scandaleux. Bon, mais alors, regardez. Vous avez par exemple les élections municipales qui vont arriver ou les législatives, d'accord? Si le patron du Crédit Mutuel dit moi je veux que ce soit le député macroniste qui soit élu, eh bien il va consacrer le député macroniste aura on va dire 100 mètres carrés d'articles pendant à peu près 6 mois, alors que son opposant aura peut-être 10 mètres carrés.
Mais là, il y a des contrôles quand même de l'autorité.
Non, il n'y a pas de contrôle. Non, zéro. Dans la presse écrite, non, il n'y a pas de contrôle. Le seul contrôle que vous avez, c'est sur les télévisions.
Oui, avec
l'ARCOM. Avec l'ARCOM, il compte les minutes d'exposition, mais dans la presse écrite, il n'y a pas. Ça n'existe pas.
Donc,
c'est pour ça qu'ils ont racheté la presse écrite.
Parce que c'est le début.
Regardez ce qui s'est passé avec Marianne. Regardez ce qui s'est passé avec Marianne. Là, vous avez tous les journalistes de Marianne qui se... L'hebdo. Ils se sont révoltés contre la nouvelle rédactrice en chef qui a été mise en place par Kretinsky qui vient de racheter Marianne. Regardez, Macron a fait racheter Brut par M. Sadé qui possède BFM.
Et d'autres chaînes, voilà. Enfin, c'est un groupe BFM.
Oui, voilà, d'autres chaînes. Et donc la rédaction de Marianne s'est révoltée parce qu'ils avaient refusé d'être achetés par Netanyahou, qui leur a proposé un voyage de presse à Tel Aviv pour leur expliquer qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Ils ont tous refusé d'y aller et la rédactrice en chef nommée par Kretinsky, elle s'y est collée elle-même et elle a publié son article dans Marianne sans déclarer que tout son voyage et ses dépenses, etc., en Israël ont été payées par Netanyahou.
Mais il y a de nombreux responsables politiques, sans être au gouvernement, qui ont des voyages aussi payés par tel ou tel groupe.
La moitié, quasiment la moitié des députés français et sénateurs, en fait, ont tous quasiment été en Israël, intégralement payés par Netanyahou.
Mais ils ne disent pas forcément.
Jamais. Il faut regarder. Parce qu'ils sont obligés de le déclarer et quand vous examinez, alors c'est fastidieux, hein, mais je ne sais plus quel journal l'a fait. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient tous pris en main par Elnet. C'est une compagnie, c'est l'équivalent de l'AIPAC aux États-Unis. C'est la société de relations presse d'Israël.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là, Pierre, parce que sinon on y passerait du temps et ce serait passionnant comme à chaque fois. Mais je vais conseiller à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui vous ont écoutés, Pierre Jovanovic, de se procurer dans toutes les bonnes librairies 2008, Le Jardin des Livres. Sinon, on peut le commander, évidemment. Je suppose qu'il y a d'autres projets littéraires sous le coude.
Écoutez, oui, mais c'est surtout j'ai des dédicaces.
Parfait.
Vous savez que tous les samedis, en fait, je suis un peu partout en France. Donc, vous pouvez le voir sur quotidien.com. Et là, c'est Chaumont, quoi, c'est ce samedi. Ensuite, c'est Soissons. Enfin, je serai un peu partout à Chambéry, Mont-de-Marsan, Paris. voilà. Donc,
mais j'espère qu'on aura
toujours un grand plaisir de voir les vos auditeurs.
Mais j'espère qu'on aura aussi le plaisir de vous accueillir en Dordogne dans les mois qui viennent.
Ah ben avec grand plaisir, vous me dites quand je viens.
Parfait. Merci beaucoup.
Depuis le temps qu'on fait ces interviews, oui, je pense que vos auditeurs seraient ravis.
Mais oui, parce que comme je vous le disais
aussi.
Dans l'entretien,
oui, parce qu'on fait toujours ça à distance.
Il m'en parle régulièrement quand il y a un livre qui sort de votre part. Merci beaucoup pour ces quelques minutes en tout cas.
Ben je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.